Cette réalisation de rapport répond à cette exigence de partir du terrain, de choses concrètes, comme on dit, bottom up, du terrain jusqu'à la généralisation de résultats pour en discuter dans un contexte national. Comment ça se fait? Je pense que ici, on est dans des questions disciplinaires qui font que certains spécialistes, vu leur situation, peinent à retourner sur le terrain et réalisent certaines enquêtes, de la base d'un bureau sans avoir des résultats mis à jour et éprouvés surtout par les réalités qui changent toujours en fonction du contexte. Donc, c'était pour répondre un peu à ces manques, à ces impasses, qu'on a proposé une étude vraiment empirique à la base qui monte en généralité sur la base d'études de cas concrets qu'on peut présenter et répondre justement à ce besoin de remise en question et ce besoin de réactualisation toujours d'actualité, surtout en vertu de l'évolution rapide des contextes.
Il n'y a donc pas un tabou en Suisse par rapport à ce sujet.
En fait, on a peut-être l'impression aujourd'hui que ce sujet tend à disparaître, ce qui n'est pas le cas. On vit une actualité débordante et inquiétante à plusieurs niveaux. On avait la crise pandémique qui continue encore un peu. On a à présent la crise de la guerre en Ukraine. Et ce sont peut-être des aspects qui font oublier cette actualité un peu plus ancienne d'extrémisme violent en lien avec le départ dans des zones de guerre en Syrie, par exemple, mais qui reste une menace, un risque sous-jacent et encore alimenté par les crises actuelles sociales et psychologiques d'une certaine partie de la population qui anime justement ces risques de radicalisation ou d'extrémisme violent. Du coup, il y a peut-être un tabou, comme vous dites, dans le fait de reconnaître un risque et justement notre approche se veut dans la prévention. Donc il s'agit d'agir en amont avant qu'il ne soit trop tard. Et bien sûr, quand on parle de prévention, c'est beaucoup moins visible que de réponse après une catastrophe qui serait arrivée. Donc on est dans une entreprise qui se veut à moyen et à long terme et qui n'est pas sanctionnée par des statistiques qu'on peut mettre en avant sur les résultats de la prévention. C'est toujours un peu, vous voyez, la difficulté de cette démarche qui est très importante, qui est primordiale, mais qui ne se voit pas tant que certaines mesures plus sécuritaires ou plus répressive en aval.
Mais est-ce que cette violence liée à l'extrémisme, elle est différente en Suisse que dans d'autres pays, comme par exemple la France?
Et là, ses propres spécificités, mais en même temps, on propose ici de prendre le phénomène dans son contexte d'Europe occidentale, donc en prenant l'exemple de cas français, britannique, belge, puisqu'il y a des logiques communes, notamment dans les causes, les facteurs de risque conduisant à cet extrémisme, sont très similaires d'un pays à un autre en Europe, mais avec des degrés différents, vous voyez, avec des spécificités nationales qui sont aussi mentionnées dans le rapport. Du coup, on a un focus sur la Suisse. Les études de cas sont suisses pour la grande majorité, mais on a un retour aussi sur des études, sur la littérature qui a été faite en Grande-Bretagne ou en France, parce qu'on a quand même des logiques communes dans ces facteurs de risque divers qui se répètent d'un pays à l'autre, encore une fois dans le contexte européen. Si on parlait d'extrémisme violent au Yémen ou en Afghanistan, on serait dans des logiques complètement distinctes.
Vous parlez de facteurs de risque, ça veut dire que dans votre étude, on arrive à cibler les critères qui peuvent alerter contre un risque de dérive?
Tout à fait. L'enjeu de cette étude est d'essayer de faire la part des choses en présentant ces facteurs de risque distincts, en parlant de causes cumulées et inquiétantes à la mesure qu'elles se cumulent. On a trois facteurs de risque fondamentaux, ceux liés à l'échelle psychosociale, ceux liés aux idéologies et ceux liés aux réseaux et aux conditions d'accès à ces milieux. Et le risque est réel et important quand ces facteurs sont cumulés chez une même personne, vous voyez? Donc on essaye d'être dans la description, dans le rapport, mais aussi d'alerter sur le fait que ce n'est pas qu'un facteur de risque isolé ou ce n'est pas qu'une seule cause qui présente un signe de radicalisation comme on l'a entendu dans certains pays.
Alors vous l'avez dit, hein, la volonté du rapport, c'est d'élaborer une vision stratégique pour la Suisse, mais destinée à qui?
C'est un rapport qui se veut destiné à tout professionnel des institutions publiques, dans un premier temps en lien avec la jeunesse, en lien avec des populations plus ou moins concernées par ce risque, mais également aux associations de la société civile et aux organisations religieuses, donc les organisations chrétiennes qui ont financé cette étude, les trois églises nationales du canton de Berne et les organisations musulmanes, donc je parle ici de centres islamiques ou de mosquées, qui peuvent bénéficier des solutions proposées par le rapport ou des recommandations. En fait, la fin du rapport termine par des recommandations adressées tant aux institutions étatiques qu'aux associations et aux églises et finalement aux centres islamiques qui ont une part importante à jouer dans ce processus de prévention.
Alors justement, ces organisations musulmanes, vous l'écrivez, hein, qu'elles sont qu'une erreur courante est d'omettre leur rôle dans le cadre de la prévention. Que doit être alors leur rôle du coup?
Le rôle est varié et direct, et ici on a seulement quelques secondes pour le préciser, ce qui est bien sûr très délicat, mais il y a à agir tout d'abord dans l'éducation religieuse et ensuite dans la diffusion de contre-discours théologiques, parce que souvent des personnes qui se reconnaissent comme musulmanes, qui peuvent être tentées par l'extrémisme, pâtissent d'un manque de connaissances théologiques, d'un manque d'expertise et de compréhension des enseignements de l'islam. Et ici, le rôle est primordial pour les centres islamiques de transmettre une éducation religieuse à ceux qui veulent, bien sûr, de manière plus rigoureuse, de manière plus détaillée, parce que ça constitue une antidote à la montée en extrémisme. Mais ensuite, il y a aussi un rôle social pour contrer les sentiments d'islamophobie ou d'hostilité envers l'islam ou les musulmans que peuvent avoir certains de nos concitoyens en raison d'une méconnaissance de l'islam et d'une certaine vision géopolitique de ce qui s'est passé ces dernières années qui peuvent donner un message négatif de l'islam. Donc ici, la mission des centres islamiques est double, à la fois de transmettre une éducation religieuse pour les personnes musulmanes qui s'y intéressent, et aussi de présenter aux concitoyens ce que c'est l'islam dans une perspective plus positive et plus nuancée que certains discours qu'on a eu l'occasion d'entendre.